Le journal Mireille Boukassa.
Brassage de l'armée en RDC, le premier bataillon intégré de la garde républicaine est là, composé de 830 militaires issus d'anciennes forces belligérantes. Ce bataillon a terminé son brassage de 3 mois. Il a été officiellement présenté aujourd'hui à Kinshasa. Une centaine d'élèves ont manifesté ce matin dans les rues de Kisangani. Ces élèves protestent contre les grèves récurrentes de leurs enseignants. Accident mortel ce matin dans la mine de Kalukuluku, province du Katanga. 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un éboulement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal en français sur Radio Capi. 830, c'est le nombre de militaires du premier bataillon intégré de la future garde présidentielle. Ils viennent de terminer leur formation. La présentation officielle de ce bataillon a eu lieu ce jeudi au centre de formation de Kibomango, dans la périphérie est de Kinshasa, à 45 km du centre-ville. Ce bataillon intégré de la garde républicaine est constitué d'éléments issus d'anciennes forces belligérantes. Au terme de cette cérémonie de présentation, ces militaires brassés se disent contents de travailler ensemble sous un même commandement militaire. Quelques-uns d'entre eux s'expriment au micro de Dona Madimba.
Je m'appelle Sergent Major Mwana Bahati, je viens de la composante ex-RCD Goma. Depuis qu'il est ici, il se sent très bien, il cohabite très bien avec ses collègues, de compagnons d'armes. Ça signifie qu'il est pour la sécurité du chef de l'État et il considère un seul chef d'État au lieu de 4 comme c'était avant.
Ex-GR.
L'ex-GR, garde républicaine.
Comment on a eu Katangambaï fils.
Il s'appelle Katangambaï fils.
Nazana et Sengomunene Ndenge Basangisona Baninga Batibipai Nabipai.
Il est très content de se retrouver ici avec ses collègues venant d'autres composantes.
Pour
qu'ensemble ils puissent faire un même travail dans l'entente.
Tosa Musala na Bumoko na Kindeko.
Kajere Kasereka.
Actuellement, du fait qu'ils se retrouvent ensemble avec ses collègues des autres composantes, ils se sentent vraiment à l'aise.
Notez aussi que le ministre de la Défense et le chef d'état-major général qui étaient présents à la cérémonie se sont dit satisfaits de cette autre étape atteinte dans le processus de l'intégration de l'armée. Mais toujours est-il qu'ils appellent les militaires brassés à la discipline, la loyauté et à l'amour de l'intérêt supérieur de la nation. Processus électoral en RDC, une conférence débat s'est tenue à ce sujet hier mercredi à Kikwit. Nous sommes dans la province du Bandundu, animée par la Fondation internationale du système électoral IFES. Cet atelier a porté sur l'organisation du second tour de la présidentielle, mais aussi sur le scrutin provincial. Les participants ont commencé par évaluer le scrutin du premier tour avant de proposer des recommandations pour la réussite du second tour. Fabien Kambinzi.
Dans quel état d'esprit nous allons tous, candidats et électeurs, aborder les prochains scrutins du 29 octobre 2010? C'est la question essentielle qui a retenu l'attention de plusieurs participants à cette conférence. Selon Stani Matia Diropi et conférencier du jour, les élections présidentielles du deuxième tour et législatives provinciales ne sont pas moins importantes que celles du 30 juillet 2006. Nous devons aborder ces élections avec le même engouement pour que le premier scrutin, surtout que les élections législatives provinciales nous concernent directement ici à la base, a-t-il ajouté. Tout en reconnaissant le bon déroulement des scrutins du premier tour, plusieurs participants ont recommandé aux deux candidats du second tour, de multiplier des meetings et des débats pour expliquer leurs projets de société, de s'abstenir de distribuer des polos, des képis et affiches comme message de campagne. Ils ont en outre demandé aux partis politiques d'encourager leurs membres dessus au premier tour à aller voter massivement le 29 octobre prochain, bien que leur candidat n'ait pas remporté la victoire attendue lors des élections passées. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Processus électoral toujours, le parti Lumumbiste Unifié annonce avoir débuté les consultations à la base pour déterminer l'attitude à tenir au deuxième tour de la présidentielle et formuler les propositions à prendre pour la participation au Parlement et au gouvernement. C'est ce qui ressort de la déclaration politique de ce parti publiée depuis hier mercredi. Par ailleurs, toujours selon la même déclaration, le Palou tiendra compte dans son choix, notamment de l'unique considération consistant à éviter à devenir tôt ou tard l'artisan involontaire de la balkanisation de la RDC. Restons à Kinshasa où le MLC annonce la disparition du médecin personnel du vice-président Jean-Pierre Bemba. Dans une déclaration faite à la presse, le MLC affirme que Dr Soso est porté disparu depuis le 20 août dernier. Le parti de Jean-Pierre Bemba déclare que jusqu'à présent, le Dr Soso demeure introuvable, cela malgré les multiples démarches effectuées par le parti pour le retrouver. Selon Thomas Louaka, secrétaire exécutif du MLC, il aurait parlé avec Dr Soso quelques minutes avant sa disparition. Thomas Louaka est joint au téléphone par Fidel Kakissa.
Que depuis le 20 août de cette année, nous avons perdu les traces du docteur Soso.
Pourquoi avez-vous attendu ces moments-ci pour le dire?
Non, parce que nous avons commencé, nous avons lancé des démarches à notre niveau. Nous avons pris des contacts avec les responsables des services de sécurité. Et comme on nous a dit que c'était des hommes en tenue militaire et armée qui l'avaient enlevé, donc nous avons contacté les responsables des unités militaires qui sont à Kinshasa. C'est comme ça que nous avons jugé bon à ces moments-ci de pouvoir communiquer maintenant avec l'opinion nationale. Si c'est pour des raisons politiques, nous demandons à ceux qui les détiennent, docteur Soso, c'est un médecin, ce n'est pas un politicien, qu'on puisse les libérer.
Parlons éducation. Une centaine d'élèves des différents établissements scolaires de Kisangani sont descendus cet avant-midi sur les artères de la ville. Ils s'insurgent contre les grèves récurrentes des enseignants et exigent la reprise immédiate des cours. Ces élèves demandent au gouvernement de garantir le droit à l'éducation à tous les enfants congolais. Plus de détails avec Xavier Faraï.
La marche est partie de l'Institut Maëlé, une des grandes écoles catholiques de la ville. Une centaine d'élèves des différents établissements scolaires de la ville ont réclamé la reprise immédiate de cours. Habillés en uniforme bleu-blanc, cartable à la main, ils ont parcouru les grandes artères de la ville sous l'encadrement des éléments de la police nationale congolaise. Sur les pancartes portées à main, on pouvait lire, je cite, « Respecter l'article 43 sur l'éducation des enfants congolais, nous voulons étudier, payer les enseignants, pourquoi la grève ?» L'État congolais répond, fin de citation. Un élève explique la motivation de la marche.
Nous voulons la rentrée immédiate des cours. Nous voulons le respect de l'article 43 garantissant toute personne de droit à l'éducation scolaire. Et nous nous demandons, avec de tels retards, est-ce que l'examen d'État sera-t-il repoussé pour nous?
Les manifestants, essentiellement les élèves finalistes, ont déposé un mémorandum auprès de l'archevêque de Kisangani, de la Monique, de la mairie et du gouvernorat des provinces. Pour l'autorité provinciale, les partenaires éducatifs lui ont rassuré la rentrée scolaire effective pour lundi 19 septembre prochain. Jean-Pierre Lola Kisanga, gouverneur de province.
Ils ont effectivement le droit d'étudier. J'ai annoncé aux élèves que le lundi, tous les partenaires éducatifs ont convenu avec moi. Toutes les écoles de la province orientale devront reprendre.
Les représentants du CIECO et de l'ANAPECO ainsi que les responsables scolaires s'attellent pour sauver l'année scolaire 2006-2007. Xavier Faraï, Kisangani, Radio Okapi.
Enseignement toujours au Kasaï occidental dans le territoire de Mweka. Les élèves de l'Institut de Mweka 2, la plus grande école du territoire, n'ont pas étudié hier mercredi. À la base, une bagarre entre le responsable de leur établissement et celui de l'Institut Mweka 1. Ces deux autorités se disputent les bâtiments. Bilan, le préfet de l'Institut Mweka 2 est grièvement blessé, tandis que son homologue est aux arrêts. Willy Kalombo pour les détails.
C'était aux environs des après-midi lorsque le préfet Chitoko de l'Institut pédagogique Mweka 2 supervisait les activités scolaires. Selon des témoins, le préfet Mbakama de l'Institut scientifique Mweka 1, accompagné de quelques personnes, le rejoint dans la cour tout en demandant sur un ton menaçant au préfet Chitoko et aux élèves de quitter les bâtiments. Il s'en est suivi une bagarre. Le préfet Mbakama et son groupe s'érue sur Chitoko et l'enferme dans le bureau avant de lui administrer plusieurs coups. La victime a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police interpellée par les cris des élèves en débandade. Ayant perdu connaissance, le préfet de l'Institut Mweka 2 a été immédiatement conduit à l'hôpital. Selon le médecin de cette structure sanitaire, la victime a eu une blessure fatale sur la tête et avec des soins intensifs, sa vie ne sera pas en danger. Selon le chef de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'occupation des bâtiments ne pouvait faire l'objet de conflits. Mukendi Kamba précise que depuis mardi dernier, il avait été convenu que l'institut de Mweka, scindé en deux instituts distincts, utilise les mêmes infrastructures, ce afin qu'une section fonctionne les avant-midi et l'autre les après-midi. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ceci a dégénéré en conflit. Kananga, Willy Kalombo, Radio Okapi.
Éboulement ce matin dans la mine de Kalukuluku, c'est dans la commune de Rwashi à Lubumbashi, province du Katanga. Trois morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de cet accident survenu ce jeudi vers 9h. Pendant que les secours sont organisés de manière artisanale, d'autres creuseurs sont encore coincés dans les galeries souterraines. Des précisions avec Kalinge Yantungi.
L'accident a eu lieu ce jeudi 14 septembre vers 9h. Les creuseurs artisanaux ont immédiatement organisé le secours et ont réussi en deux vagues à extraire de la mine 13 personnes parmi les accidentés qui étaient coincés dans la mine. Trois parmi eux sont morts et les autres ont été évacués vers l'hôpital militaire de la Rwashi. Selon les personnes chargées d'organiser les secours, d'autres creuseurs sont encore coincés dans les galeries souterraines. Impossible alors qu'il est de déterminer le nombre exact de personnes qui se trouveraient dans la mine. D'après le témoignage d'un des rescapés, la mine présentait déjà des fissures depuis quelques semaines. Madame Stella Ilunga, bourgmestre de la commune de Rwashi, affirme que l'association des exploitants miniers artisanaux du Katanga, EMAC, doit prendre les responsabilités devant cet autre drame qui frappe les creuseurs de la mine de Kalukuluku. Signalons que cette mine de la concession de l'entreprise Rwashi Mining est exploitée par les creuseurs artisanaux encadrés par l'EMAC. Lubumbashi, Kalingeya Mukena Yantumbi, Radio Okapi.
Restons dans la même province pour parler des champs des paysans qui sont de plus en plus ravagés par les animaux. Un troupeau d'éléphants du parc Upemba en divagation a détruit environ 36 hectares des champs de manioc et maïs et 21 dépôts des produits agricoles. Cela s'est passé depuis deux semaines dans cinq villages de la chefferie Kasongo-Anyemba à 80 km de Kamina. Ces éléphants s'attaquent aussi aux habitants qui se sont vus obligés d'abandonner leur maison. Les autorités du district du Olomami comptent envoyer une équipe pour mettre en place des mesures de sécurisation de la population. On écoute le témoignage de Yves Kasongo Nyembo, grand chef de collectivité. Il est au micro de Colin Djumamusompo.
Il y a un troupeau d'éléphants, je crois 15 à 16 éléphants, qui viennent du parc national de l'Upemba. Ils rôdent autour du groupement Nyanga et Zingo. Il y a les champs qui sont ravagés, il y a les villageois qui ont fui, les paysans qui ne peuvent plus aller aux champs parce que c'est une menace. Hein. Il y a au moins des chasseurs qui peuvent abattre ces éléphants, mais on ne peut pas le faire sans l'autorisation préalable de l'autorité du district. C'est un peu compliqué pour intervenir. Hein. La population doit faire très attention aux éléphants, parce que ce sont des éléphants qui ne vivent pas dans le coin. Ils viennent du parc. C'est pour la première fois qu'on les voit traîner à Nyanga et à Kingo. C'est tout près de la base militaire de Kamina.
Au Kasaï oriental, ce sont plutôt des criquets et de chenilles qui ravagent les champs de maïs et de manioc. Cela se passe précisément dans les localités de Ludimbi-Lukula et Lukachiloalu. Ces deux secteurs se trouvent dans le territoire de Kabinda, environ 150 km au nord-est de Mbujimayi. Selon l'inspecteur du district de Kabinda, il y a un mois que ces insectes ravagent les champs. La population lance un SOS. Elle demande aux organisations nationales et internationales de lutter contre ces insectes destructeurs de plantations. Esther Ndalafina.
Une nouvelle vague de criquets est arrivée dans le territoire de Kabinda. Selon Dr François Kalenga, inspecteur de l'agriculture du district de Kabinda, sept localités sont touchées par des criquets migrateurs et des chenilles qui ravagent des champs dans les secteurs de Lukachiloalu et Ludimbi-Lukula. Ces localités produisent le maïs, le haricot et l'arachide. La récolte de la prochaine saison agricole risque d'être très maigre, ajoutent les autorités locales. Dr Kalenga rapporte qu'il y a de cela un mois que ces insectes ont réapparu dans ces deux secteurs du territoire de Kabinda. À leur passage, ils laissent un filament sous forme d'étoile d'araignée sur les feuilles qui sèchent et tombent. L'inspecteur de l'agriculture du district explique que les paysans ont remarqué la présence de chenilles dans cette région deux semaines après qu'on ait semé le maïs. Dr Kalenga évoque aujourd'hui le manque de moyens pour envoyer les échantillons en vue de les analyser. La population locale lance un cri d'alarme pour une solution en vue de détruire ces insectes. L'année dernière, les mêmes insectes avaient ravagé les champs de cette partie du Kasaï oriental, réduisant ainsi la production. production agricole. Bouchimaï, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Direction province du Bas-Congo, 24 heures après l'incendie qui a endommagé les bureaux du guichet unique au port international de Matadi, l'OFIDA, Office des douanes assises, a repris les opérations de dédouanement avec un système manuel. Pendant ce temps, des techniciens venus de Kinshasa sont à pied d'œuvre pour rendre fonctionnel le service informatique. Dani Kindanzita.
C'est depuis hier dans la soirée qu'une équipe de techniciens venus de Kinshasa a été dépêchée par la direction générale de l'OFIDA pour exécuter les travaux de réhabilitation du bureau de guichet unique brûlé au port, a déclaré un responsable de l'OFIDA. Selon la même source, les services de ce bureau seront rétablis en moins de 24 heures car, a-t-elle dit, le serveur central n'a pas été touché. Pour Roger Mboningaba, un déclarant douane au port international de Matadi, il n'y a pas de conséquences majeures car le système manuel mis en place par l'OFIDA fonctionne sans difficulté et les opérations de dédouanement se poursuivent comme d'habitude. À noter que jusqu'à l'heure actuelle, les enquêtes se poursuivent toujours pour connaître l'origine de cet incendie. Depuis le port international de Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur www.radiokapi.net. Vous pouvez nous retrouver. Okapi. Okapi.